France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Michael Filetas, quand le masculinisme tue. Le 29 janvier 2020, en région parisienne, cet homme assassine son ancienne compagne, Mélanie, de 80 coups de couteau et s'en prend ensuite au compagnon de Mélanie, Brian, et à sa petite sœur, Mallory, qui survivront miraculeusement à leurs blessures. Rapidement, les enquêteurs découvrent un pan de la personnalité du meurtrier. À côté de ses activités de prof de Zumba, Filetas alimente également une chaîne YouTube consacrée à la drague, sur laquelle il dispense ses conseils en séduction. Au fil des 1300 vidéos produites, se manifeste sa haine des femmes, qu'il considère comme des créatures menteuses, vénales, qu'il ne faut pas hésiter à punir. Une idéologie masculiniste qui a tué Mélanie, comme d'autres femmes avant elle dans le monde, assassinées pour les mêmes raisons. Notre invitée aujourd'hui, Pauline Ferrari, journaliste, spécialiste des cultures numériques. Elle est l'autrice d'une enquête sur le masculinisme en ligne, dans un ouvrage intitulé « Former à la haine des femmes » et publié chez Jean-Claude Lattès en 2023. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Koum.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Ekebilly, département des Yvelines. Nous sommes le 29 janvier 2020. À 4h30 du matin, dans la petite rue des Champs-Rosiers, le bleu des gyrophares de la gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye clignote. Arnaud, un riverain, les a alertés quelques instants plus tôt. Un appel passé au 17 dans l'effroi et la précipitation, il vient de retrouver sur le pas de sa porte un homme ensanglanté. La victime affirme avoir été agressée dans la maison voisine, celle de sa compagne. Les gendarmes s'y introduisent. Dans le garage, une femme gît dans une mare de sang. Son ventre présente d'innombrables blessures. Les gendarmes progressent dans le noir, interrupteur éteint. Enfin, ils ne répondent pas. À l'étage, ils retrouvent une autre femme, au corps également recouvert de plaies. Elle est toujours consciente, les mains menottées dans le dos. Et elle ne cesse de dire qu'elle a mal, si mal. Puis, elle leur souffle le nom de celui qui l'a mise dans cet état. Un certain Michael Filetas, l'ancien petit ami de sa sœur, Mélanie, qui agonise dans le garage. Le lendemain, sur sa chaîne YouTube consacrée à des chorégraphies de Zumba, Tim Border, un ami de Mélanie, veut tout de suite saluer sa mémoire.
Salut les amis, salut les zines, salut les familles, les amis de Mélanie. La plupart d'entre vous ont appris la triste nouvelle hier soir. Mélanie s'est fait poignarder par son ex-compagnon. Elle est décédée suite à cela. J'ai rencontré Mélanie en fait en France il y a quelques années par le biais de Zumba. Voilà, je réalise pas encore tout à fait ce qui se passe. Donc voilà, j'avais tourné une petite vidéo avec elle l'été passé, que je n'avais pas encore posté, et ça sera vraiment pour moi l'occasion de lui rendre hommage et de lui dédier vraiment cette vidéo. Mes pensées sont avec vous et je vous embrasse très très fort. Et en cette fin de semaine tragique, tous mes cours te seront dédiés, Mélanie. Je danserai pour toi, avec toi, sur les musiques qu'on a kiffées.
Mélanie est morte, poignardée par Michael Filetas. Sur cette vidéo qui lui rend hommage, la jeune femme, blonde et athlétique, enchaîne les pas sur la musique typique de cette danse fitness, qu'est la Zumba, une forme de rap dansant issue de plusieurs genres musicaux afro-caribéens, l'une des passions de la jeune femme. C'est dans l'un de ses cours de Zumba qu'elle a croisé Michael Filetas. Séducteur, beau gosse, barbe fine et bien taillée sur sa peau brune, il enseigne cette danse. Les deux tombent amoureux. Ils s'installent rapidement ensemble au domicile de Mélanie. Leur histoire dure 3 ans. En juin 2019, en effet, la jeune femme décide de déménager. Elle veut quitter Filetas. À l'une de ses amies, elle confie avoir peur de lui. Et pour cause. Quelques semaines auparavant, dans une rage folle, il a tout cassé chez elle. Et Filetas la harcèle. Il l'appelle, l'inonde de SMS. Début novembre 2019, il la convainc d'un rendez-vous. Mélanie accepte de le rejoindre pour lui rendre quelques affaires qui traînent encore chez elle. Mais la discussion tourne mal. Et comme elle refuse de renouer, son ex-compagnon la frappe. Les messages de celui-ci ne s'arrêtent pas pour autant. Le 24 janvier 2020, il revient à la charge. Il veut savoir si la jeune femme a rencontré un autre homme. Elle refuse de répondre, alors Filetas insiste et il écrit « J'espère que tu ne m'as pas menti consciemment, hein, parce que tu sais que ça me rend dingue. » L'homme ne lâche pas son portable. Quelques minutes après ce dernier message à Mélanie, il recherche des adresses d'armurerie. Le 27 janvier, il achète à Paris un pistolet automatique à billes d'acier, une matraque et des menottes. Le lendemain, le 28, il est de retour à l'armurerie. Et cette fois, son choix se porte sur un grand couteau, un de ceux qui équipent les marines américains. La lame en acier trempé mesure presque 20 cm. Ces derniers jours, Filetas, qui squatte à gauche à droite depuis sa rupture avec Mélanie, a pris une chambre d'hôtel à Orgeval, à 6 km seulement d'Ecquevilly. Le 29 janvier dans sa chambre, le réveil sonne à 2h du matin. Filetas quitte l'hôtel, gros sac noir d'eau. Il marche pendant 1h20. Arrivé à rue des Champs-Rosiers, il saute la palissade du fond du jardin et force la porte du garage au pied de biche. À l'intérieur, il sort le couteau de son sac, des menottes et un taser. Il fait sauter le disjoncteur, enlève ses chaussures et monte dans la maison, dans le noir complet. Dans le salon, la sœur de Mélanie, Mallory, dort sur le canapé. Filetas lui menotte les mains dans le dos. Alors Mallory crie, elle appelle Mélanie qui dort à l'étage. Et l'homme aboie, tais-toi ou je te tue, je vais te planter. Et il lui assène un premier coup de couteau, puis un autre, et un autre encore. Ensuite, il lâche sa première proie et grimpe 4 à 4 l'escalier qui mène à l'étage. Ce qui se passe ensuite dans la chambre, c'est Brian, le petit ami de Mélanie, qui en témoigne dans un reportage sur M6 intitulé « Michael Filetas, l'homme qui détestait les femmes ».
Ça commence à attaquer en première Mélanie. Après, cette personne est venue sur moi, s'est balancée, m'a attaqué, donnait des coups de couteau partout. J'ai demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça ?» Il répondait pas, il parlait pas, la personne ne parlait pas. Il me donnait des coups de couteau comme si j'étais un sac de poubelle. C'était inarrêtable, c'était un diable. Quand quelqu'un fait un truc comme ça, j'imagine que voilà, on se gratte la tête, on fait des mouvements, on est stress total. Non, lui, il est calme, serein.
Filetas laisse Brian pour mort. Mais il n'a pas terminé sa besogne. Mélanie, déjà blessée de plusieurs coups de couteau, est parvenue à s'enfuir. Mais Filetas la retrouve dans le garage. Et là, il s'acharne. Les médecins légistes comptent 80 coups de couteau. L'assassin remonte une dernière fois les escaliers qui mènent au rez-de-chaussée de la maison. Il attrape les clés de voiture de Mélanie et s'enfuit, persuadé qu'il ne laisse derrière lui aucun témoin vivant. Mais c'était sans compter sur la rage de vie de ses victimes qui luttent contre la mort. Brian parvient à ramper jusqu'à la maison voisine et donne l'alerte. Quand ils arrivent sur les lieux, jamais les gendarmes n'avaient vu une scène de crime aussi sanglante. Dans le salon, ils retrouvent Mallory. Les secours, en revanche, ne peuvent rien pour sa grande sœur. Filetas n'a laissé aucune chance à Mélanie. Et elle succombe à ses blessures, trop nombreuses. Immédiatement, un mandat de recherche est lancé. Une dizaine d'heures plus tard, à 14h, le 29 janvier 2020, Filetas est interpellé à Villefranche-sur-Saône, dans la région lyonnaise, alors qu'il sort d'une pharmacie. En garde à vue, il ne dit rien. Mais l'enquête permet de dessiner le portrait de cet homme que tout accuse du crime. Ses anciennes compagnes, nombreuses, sont interrogées. Elles se partagent entre deux visions radicalement opposées du jeune homme. Les unes le disent indolent, drôle et gentil. Les autres décrivent un grand jaloux, infidèle et totalement égocentrique. Puis le frère de Filetas éclaire encore les enquêteurs. Brouillé avec lui depuis ses faits de violence conjugale, il souligne un trait de la personnalité de Filetas, sa profonde misogynie. Elle transpire d'ailleurs sur son compte YouTube. Parce que Michael Filetas se pique d'être l'un de ces influenceurs de la célèbre plateforme de vidéo, prof de Zumba, il développe aussi depuis 3 ou 4 ans une activité de coach en séduction. Sur YouTube, il multiplie des vidéos de conseils pour aborder les femmes et se répand sur ce qu'il pense de celles-ci, comme en atteste ce florilège, monté par la journaliste de Tony Comity Productions, Charlotte Durand.
Bonjour à tous, ici Filetas Michael, le virtuose de la séduction irrésistible.
Ne jamais mettre une femme sur un putain de pédestal. bien traiter une femme, la traiter comme une princesse, c'est se tirer une balle dans le pied. Je suis le premier professeur en France hein, d'éducation masculine.
Putain. Mais j'étais prêt à lui mettre une tarte dans sa gueule. Je fais putain.
Ouais, c'est ça que je me pose comme question. Comment ça se fait que elle n'est pas finie dans un trou, tu n'es pas fait une dinguerie à cette époque-là? Il y en a plein qui auraient vrillé de ouf. Tu as eu du sang-froid de ouf, hein, parce que moi, un truc comme ça, putain, la meuf, je l'enterre. Hein.
La mission, c'est d'apprendre aux hommes à être compétents en séduction pour ne plus être dépendants d'aucun vagin que ça soit.
Filetas, le virtuose de la séduction absolue, comme il se désigne. Dans d'autres vidéos, il se proclame spécialiste de la masculinité, de la séduction irrésistible et de la communication audacieuse. Prolixe, en 3 ans, il poste plus de 1300 vidéos, alternant différents formats, passant de ses réflexions face caméra au dialogue filmé avec des abonnés à sa chaîne. Toutes ces vidéos cumulent 800 000 vues, ce qui est beaucoup, mais sans plus. Filetas n'est pas un cadeau du conseil en séduction, et la concurrence est sévère. Ce genre de vidéos pullulent sur YouTube, comme sur les réseaux asociaux, qu'on dit sociaux. Ces conseillers en séduction, on les appelle sur Internet les pick-up artistes, ou artistes de la drague. Leur credo, en appliquant certaines recettes, un homme peut séduire n'importe quelle femme, puisqu'elles sont toutes interchangeables, genre il n'y a pas de citadelle imprenable. Ces bonimenteurs de la séduction incitent donc leur public à aborder sans complexe les femmes dans la rue, les rabaisser d'une remarque pour piquer leur curiosité, puis tenter le contact physique. But de la manœuvre, au minimum décrocher un numéro de téléphone. Le tout sur fond de techniques de manipulation mentale assumées. Tel est ce fond de commerce imprégné de sexisme. Sur son compte Instagram, la journaliste Bettina Zourli explique pourquoi.
Alors, pourquoi cette pensée est sexiste? Eh bien parce qu'elle considère les femmes comme toutes similaires, mais aussi comme de simples faire-valoir. Mélanie Gourarier l'explique parfaitement dans son ouvrage « Alpha Mâle ». Il s'agit en fait de se mettre en scène pour se valoriser auprès des autres hommes. Une femme n'est donc qu'un moyen de briller auprès de ses congénères. L'entrée des hommes dans ces sphères et ces groupes est évidemment teintée de misogynie. Elle survient généralement après une déception amoureuse, et les discours des coachs et autres séducteurs renforcent l'idée des femmes viles, fourbes, sur lesquelles il faut absolument prendre l'ascendant.
Les pick-up artistes, dont se revendique Michael Filetas, constituent une part de cette nébuleuse qu'on appelle la manosphère, ces communautés d'hommes qui échangent en ligne. Tous ceux-là se sentent menacés par les revendications féministes, peut-être parce qu'ils n'ont pas la conscience tranquille, et qu'ils vivent aussi dans un univers parallèle où les injustices de genre seraient à front renversé. En d'autres termes, ils seraient les victimes d'une société féministe. Les pick-up artistes en viennent souvent à tenter ces techniques à la suite d'une rupture ou d'une déception amoureuse. Filetas ne dira pas autre chose au juge. Je ne comprenais pas le mécanisme de la séduction, donc j'ai voulu être bon dedans. À côté des pick-up artistes, on compte aussi les men's rights activistes, qui défendent, eux, les droits des pères qu'ils prétendent bafouer. Ou les incels, les célibataires involontaires, qui seraient rejetés du marché de la séduction par la gente féminine tout entière. Cette engeance se retrouve sur des forums, des channels de plateformes d'échange de messages, comme Reddit, ou sur des pages Facebook fermées, pour laisser libre cours à leur haine des femmes, sans risquer la censure des réseaux qui, soit dit au passage, n'est pas très féroce. Et pour cause, ces réseaux sont avides de contenus clivants, violents. Mais sur le fond, ce n'est pas d'aujourd'hui. Car dans les années 70, en effet, sont publiés les livres de conseils en séduction, plusieurs millions d'exemplaires vendus dans toutes les langues, en contre-pied des libertés chèrement acquises par les femmes après mai 68. C'est aussi au mi-temps de cette décennie que les premières ripostes masculines et masculinistes apparaissent en Europe ou aux États-Unis. Après les grandes manifestations féministes, après les droits arrachés sur l'autonomie financière, le divorce par consentement mutuel ou la légalisation de la contraception et de l'avortement, tous ces progrès majeurs semblent donner de l'urticaire à certains hommes. En France, en réaction à l'instauration d'une année de la femme, c'était en 1975, se crée un mouvement de la condition masculine et de la paternité. Interactualité en rencontre, le 26 décembre de cette année-là.
1975 fut une mauvaise année pour les misogynes, car beaucoup ont senti tout de même que quelque chose se passait. Et un beau jour, ils se sont réveillés, une angoisse leur serrant l'estomac et le cœur. Les femmes, se sont-ils dit, vont-elles nous échapper? Les plus inquiets n'ont pas hésité, ils ont créé un mouvement de la condition masculine. Un MLH après un MLF, ce qui peut produire ce genre de dialogue.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici ouverte la première réunion du nouveau mouvement de la condition masculine et paternelle. En ce qui concerne la condition masculine, c'est le déclin. Autrefois, les hommes étaient admirés et respectés. On vantait leurs sacrifices au travail, pendant que la ménagère se trouvait bien au chaud, à la maison, entourée de l'affection des enfants.
Les lamentations des hommes, inquiets de voir vaciller leurs privilèges, on n'a pas fini de les entendre. Dès les années 70, les émissions de télé et de radio mettent en scène leur désarroi face à des femmes qui prendraient le pouvoir dans la société. Et certains hommes vont en faire leur fonds de commerce dans une démarche réactionnaire de plus en plus patente.
I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go. I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. If I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. It only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you've deepened the conviction in my soul. Oh, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I pay the price, but look how much I gain.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Mickaël Filetas, quand le masculinisme tue.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Le masculinisme, une mouvance qui émerge presque parallèlement à la vague de militantisme féministe des années 70. Aux États-Unis, au Canada, des hommes se dressent contre l'égalité des droits, qu'ils considèrent comme une inversion de l'ordre des valeurs, un intolérable dévoiement. Une féministe américaine, Suzanne Faludi, analyse ce qu'elle appelle le « backlash », autrement dit le retour de bâton du patriarcat, qui ne supporte pas l'émancipation de l'autre moitié de l'humanité. En France, un homme va répandre cette idéologie dans les médias grand public. Il est journaliste au Figaro, déjà auteur de plusieurs ouvrages, mais c'est un livre publié en 2006, « Le premier sexe », qu'il veut construire en toute nullité en réponse au « deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, et qui va lui apporter la notoriété.
Mais tout de suite, nous allons parler de l'homme idéal, mais d'un tout autre, avec un tout autre point de vue, celui d'Éric Zemmour, journaliste au Figaro. Bonsoir, vous venez de publier un livre, ou plutôt je dirais un pamphlet, hein. Vous y dénoncez l'inversion des sexes. En clair, pour vous, les hommes se féminisent, ils ne jouent plus leur rôle. Alors, à quoi vous voyez ça, vous ?
Ben, il y a plusieurs symptômes, en fait, on peut aller très vite. Il y a des symptômes d'abord de la parure. Vous savez qu'il s'épile, il se met des bijoux, on sait tout ça. Les rayons cosmétiques masculins explosent dans tous les grands magasins. Ça, c'est une première chose assez évidente.
Le pamphlet ouvre à Éric Zemmour les portes des plateaux télé, où il peut ainsi dérouler son obsession. Il y distille également ses propres conseils en séduction. Un garçon, écrit-il, ça entreprend, ça assaille et ça conquiert, ça couche sans aimer pour le plaisir et pas pour la vie. Il justifie même la violence envers les femmes. La virilité va de pair avec la violence. L'homme est un prédateur sexuel, un conquérant, dit-il. Des propos qui promettent des clashs audiovisuels, bien sûr. Et c'est au cours de la promotion de ce livre qu'une femme, la productrice Catherine Barma, remarque Zemmour et lui offre en toute complicité une place de chroniqueur permanent dans la grand-messe du samedi soir animée par Laurent Ruquier. Ce sera sa rampe de lancement politique. Auréolé du sérieux du journal qu'il emploie, Le Figaro, Éric Zemmour à la faveur des médias. Mais il n'est pas le premier à porter ses thèses en France. En 1999, en effet, sort le livre « Vers la féminisation » avec un point d'interrogation, signé Alain Soral, qui n'est pas encore l'un des porte-voix fameux d'une extrême droite la plus décomplexée, non. Son créneau à l'époque, ce sont les techniques de drague. Il en fait même un film, « Confession d'un dragueur », puis un livre, « Sociologie du dragueur ». Sans cacher sa vision des femmes, il écrit « On peut estimer qu'il y a historiquement une supériorité créative de l'homme. Une femme, c'est d'abord un animal physique. Une femme existe d'abord parce qu'elle est belle ou pas belle. » Dans cette mouvance du conseil en séduction, on n'est jamais loin d'une dévalorisation totale des femmes, vues comme des ennemis, donc à combattre. Parmi les différentes tribus de la sphère masculiniste, l'une d'entre elles est particulièrement hostile aux femmes. Ces hommes les pensent tellement nocives qu'ils préfèrent tracer leur propre chemin. C'est ainsi qu'ils s'appellent « men going their own way » ou en français « les hommes qui suivent leur propre voie ». Exemple, parmi des milliers d'autres, de contenu estampillé de l'acronyme ECTO sur YouTube.
Hey, what's up? Hey, comment ça va les mecs? C'est RPB, Red Pill Brotherhood, la fraternité des Red Pills. Joyeuse journée internationale MGTOW. Pour célébrer cette journée, je vais faire une vidéo qui m'a demandé un gros travail, une page entière de notes. Et cette vidéo s'appelle « Les raisons pour lesquelles il ne faut pas être monogame avec les femmes ». Alors, première raison, les femmes sont des investissements qui se déprécient avec le temps et leur apparence s'écroule après 30 ans. Raison numéro 2, les hommes sont supposés payer les factures, les rencarts, acheter des cadeaux et s'adonner à la monogamie. Et en échange, les femmes donnent du sexe et de la compagnie.
Pour ces gens-là, toutes les femmes sont hypergames, c'est-à-dire, dans leur jargon, qu'elles veulent toujours s'unir avec des hommes d'une classe sociale plus élevée que la leur. Ces paranoïaques sont par ailleurs persuadés qu'une femme finit toujours par quitter son compagnon, pour l'essorer financièrement lors d'un divorce, toujours à l'avantage du camp féminin, selon eux, et pourtant à rebours de toutes les études sociologiques sur la question. Ils sont également adeptes de la pilule rouge, métaphore tirée du film Matrix. Et ils se sentent affranchis de cette vérité cruelle, les femmes ont pris le pouvoir dans notre société. Délaissant les conseils de drague, Michael Filetas va à son tour se persuader qu'il a avalé cette satanée pilule.
Il est 3h30 du matin. Ça fait depuis une heure que je suis en train de bouillonner. Parce que Hervé m'a demandé si j'étais un MJTO. Donc je suis parti sur Wikipédia maintenant derrière. Et là, j'ai saigné du nez. Je suis devenu ouf. Parce que en fait, il y a déjà une communauté de mecs qui parlent, qui agissent et qui comprennent, en fait, voilà. Qui ont la bonne grille de lecture. Et là, je suis comme un ouf.
Ce fidèle de la chaîne YouTube de Filetas, ce fameux Hervé, ne s'y est pas trompé. Il faut dire que l'hostilité à l'endroit des femmes par le virtuose de la séduction se fait sentir au fil des titres de ses vidéos. Attaque soviétique sur cette connasse, comment désinguer son ex, ou femme autoritaire rime avec Hitler, Ou encore, le très fleuri humilier ces salopes pour être leur unique option. Et ce ne sont pas seulement les titres qui sont problématiques. Le contenu des vidéos est à l'avenant. Sur l'une d'entre elles, il prophétise « Il n'y a pas de pire choix que de s'engager avec une femme. » Parce qu'au final, il n'y a que trois portes de sortie. La prison, la morgue ou la rue. Un mois plus tard, après avoir écumé Internet et ses forums les plus misogynes, il le confirme à ses abonnés. Il fait allégeance au mouvement MGTOW.
Ma chaîne, elle est réservée au bonhomme. Je vois le monde à travers les yeux d'une pilule rouge. Voilà, on vit une mascarade où c'est l'homme qui trinque.
Avoir un pénitent sur Internet, Michael Filetas se montre en revanche complètement muet face au tribunal. Le 17 février 2023, il comparaît devant la cour d'assises des Yvelines pour assassinat et tentative d'assassinat sur Mélanie, Brian et Mallory. Mon état d'esprit est toujours le même, à la recherche de la vérité. Je ne répondrai à aucune question. C'est dû à une très grosse honte. Comment pourrais-je oser me défendre, affirme-t-il devant la cour. Mais il n'admet rien. Filetas reste accroché à la version que lui ont arrachée les enquêteurs. Ce funeste 29 janvier 2020, il était seulement en quête de vérité. La vérité sur la situation amoureuse de son ancienne compagne qu'il tentait de reconquérir. Aucune préméditation. Sa responsabilité dissoute dans la colère noire qu'il avance pour justifier ses crimes. À une experte psychiatre qui l'examine, il dit même « Ce n'est pas moi qui attaque. J'ai été attaqué. C'est elle, Mélanie, qui m'a fait faire ça. » Affirmant que sa victime s'était elle-même jetée sur sa lame de couteau. Ce qui n'a pas dupé la psy, comme elle le rapporte dans le reportage diffusé sur M6. «
C'est un vagin parmi tant d'autres. » «
Un vagin parmi tant d'autres. » »«
La réalité, elle est là. »
La productivité vidéocast marque la destructivité terrible de ce monsieur à l'égard des femmes, qui sont pour lui un véritable danger. Hein. Danger, je vous le répète, de l'émasculation, de la castration, de ne plus avoir de coronesse, comme il le dit, et puis danger vital. Bien sûr qu'il est misogyne, il est avant tout haineux.
Condamné à la perpétuité avec 18 ans de sûreté, le 25 janvier 2023, Filetas fait appel du verdict. Le 6 février 2024, devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre, Filetas change de stratégie de défense. Il prend la parole dès l'ouverture de son procès pour évoquer ses victimes. « Leur vie ne sera plus jamais la même à cause de moi. Tout est de ma faute et de personne d'autre. » Alors la présidente l'interroge. « Est-ce que vous vivez la femme comme une menace ?» Réponse de l'ex-coach en séduction. Il y a une période de ma vie où je l'ai pensé, oui. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais dans l'extrême. Ces vidéos jouent contre moi. Mais si vous interrogez toutes les femmes que j'ai fréquentées, elles vous diront que je ne suis pas le Michael des vidéos. Il minimise également son imprégnation masculiniste. Ce qui l'intéressait dans cette idéologie, c'était la perspective que les hommes pouvaient réussir. Et d'ailleurs, il allait changer de ligne pour se consacrer désormais aux vidéos de voyage. Telle est la stratégie développée par son nouvel avocat pour ce procès en appel, Elia Lagapin-Greillot.
Vous avez un moment de sa vie, je pense, où M. Filetas va aller rechercher des centres d'intérêt. Il va développer une volonté de devenir créateur de contenu. Il va faire des vidéos sur la cuisine, sur tout un tas de domaines. Mmh. Et puis vous avez, au fil des années, cette mouvance hein, qu'on a appelée masculiniste qui va se faire jour. Comment il les a rejoints? Très certainement par des forums, parce que c'est aussi des idéaux qui se véhiculent sur des forums de quelques personnes bien informées. Et puis il y a ce passage par le Canada, qui est un pays très proche des États-Unis aussi, où vous avez une liberté dans l'expression de la pensée parfois la plus sombre, qui peut être plus libre aussi, moins cadrée qu'en France. Je pense que c'est à ce moment-là, potentiellement, que ces idéaux-là ont commencé à l'intéresser. Moi, ce que je note surtout, c'est que sur la fin des vidéos de Michael Filetas, en fait, il se détache totalement de cette mouvance-là, parce qu'il le dit, qu'il ne veut pas être assimilé à certains mouvements masculinistes.
Mais pour l'avocat de la famille, de Mallory et de ses parents, Frédéric Roussel, Filetas, qui se définissait comme un mâle alpha, un autre terme récurrent des masculinistes qui désigne le haut du panier de la jante masculine, bref, encore un délire, Filetas n'est pas un mâle alpha, mais un mâle oméga, autrement dit un lâche, un feignant, un raté.
C'est un sujet qui est absolument psychiatrique. Il faut savoir que pendant la procédure d'instruction, le juge d'instruction a désigné deux experts, puis un contre-expert qui était docteur Teillet, qui a donc témoigné aux assises. Quand vous lisez les conclusions de son rapport, c'est un peu ce que j'ai dit en plaidant cette affaire, c'est un inventaire à la Prévert. Vous avez faille narcissique, trouble de la personnalité, mécanisme de défense archaïque, de tonalité clairement paranoïaque, égocentrisme, évaluation péjorative d'autrui, fausseté du raisonnement. Là-dessus, vous rajoutez deux choses. Vous rajoutez un halo persécutif, en mode « je suis la victimisation ». Et à ce stade-là, vous n'avez pas encore abordé la haine des femmes. Il n'y a pas de hasard entre ce compte YouTube, cette chaîne masculiniste, et ce qu'il est lui-même. Ce sujet rentre en résonance profonde avec ce qu'il est profondément. Il n'y a pas de hasard. Il ne tombe pas dedans comme Obélix dans la pension magique.
Non, les parties civiles ne supportent pas d'entendre Filetas minimiser l'impact de ses vidéos. D'autant qu'elles sont encore accessibles quand se tient son procès en appel en février dernier. Mallory s'en indigne. Ses contenus haineux, prélude au massacre de sa sœur, peuvent encore tomber sous les yeux de téléspectateurs en quête de conseils de drague. Je trouve ça grave qu'elle circule encore et que des gens puissent s'en inspirer, dit-elle. Il se trouve que depuis l'assassinat de Mélanie et son arrestation, le compte a gagné 200 abonnés. Depuis la condamnation de Mickaël Filetas en appel à la perpétuité avec 22 ans de sûreté cette fois, le compte internet de l'assassin a enfin disparu. Seules subsistent quelques traces sur un YouTube secondaire. Mais ces élucubrations haineuses ont vite été remplacées par d'autres contenus tout aussi violemment misogynes sur Internet, cet espace capable du meilleur comme du pire.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Mickaël Filetas. Notre invitée, Pauline Ferrari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des cultures numériques. Vous êtes l'autrice d'une enquête sur le masculinisme en ligne, dans un ouvrage intitulé « Former à la haine des femmes », ouvrage publié chez Jean-Claude Lattès en 2023. Je remarque dans les titres un mot clé, « former ».
Oui, absolument.
Vous pouvez m'expliquer ça ?
Ouais, absolument. Quand on parle de réseau masculiniste en ligne, ce que moi j'ai pu remarquer au cours de mes différentes enquêtes sur ce sujet-là, c'est qu'on a vraiment des influenceurs du masculinisme, à l'image de Mickaël Filetas, en tout cas qui se rêvait d'être un influenceur du masculinisme, qui s'appliquent méthodiquement à vouloir former une nouvelle génération de jeunes hommes à une forme de modèle de la masculinité, qui serait une masculinité dominante, sans concession vis-à-vis des femmes, et profondément violente aussi.
Alors, on le disait, alors que se tient le procès en appel de Filetas, alors maintenant c'est fini, mais son compte YouTube est toujours actif et toutes ses vidéos où il tient des propos très violents sont toujours en ligne. Comment expliquer le fait que la plateforme n'ait pas été supprimée et décès en arrestation?
Mais c'est la grande question qui se pose. Je me rappelle au moment où j'ai écrit l'enquête, la chaîne YouTube de Mickaël Filetas était encore en ligne, et notamment sa dernière vidéo avoisinait les 12 000 vues à ma connaissance. Et on pouvait retrouver des commentaires du style « vivement qu'il sorte de prison, pour qu'il continue à nous prodiguer des bons conseils ». Donc ça posait vraiment question. Je sais qu'on a été beaucoup, en tant que journaliste féministe, etc., à signaler cette chaîne YouTube. Le problème, il ne faut pas oublier que la plupart des plateformes de réseaux sociaux sont quand même américaines, et qu'elle fonctionne selon cette idée du First Amendment et donc de la liberté d'expression. Et donc se joue un jeu un peu étrange où d'un côté les influenceurs du masculinisme essayent de faire en sorte de ne jamais franchir certaines limites dans ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont montrer. Et de l'autre côté, on a des plateformes qui, en fait, n'ont aucun intérêt à modérer ces contenus, parce que, comme vous le disiez dans le récit, ce sont des contenus qui sont très chocs, très clivants, et donc qui font beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on déteste, on va avoir une réaction par rapport à ça. Partager, liker, commenter, s'indigner, ça fait remonter ces contenus-là dans l'algorithme. Donc les plateformes n'ont aussi aucun intérêt à s'en occuper.
Alors, ce compte n'a pas été supprimé légalement. Est-ce que ça veut dire que la société légale considère que bon, c'est un effet de loupe, ils sont pas si nombreux que ça, les masculinistes? Est-ce qu'il y a cette idée-là? On ne prend pas au sérieux, en fait.
Il y a vraiment cette idée-là, parce que pendant longtemps, y compris dans le traitement médiatique, on a eu en fait cette idée que les masculinistes en ligne seraient une bande d'ados frustrés derrière leur écran en train d'insulter des femmes sur Internet. Il y en a, mais c'est pas la majorité. On a beaucoup de mal à considérer que le masculinisme en ligne et hors ligne, c'est un mouvement social, que c'est un mouvement politique et que c'est un mouvement qui est violent, en fait. fait, et qui peut aussi sortir des écrans, comme on l'a vu avec ce récit, pour faire des choses très violentes, allant jusqu'au féminicide ou à l'attentat de masse.
Alors, dans la manosphère, hein, c'est la sphère de tous ces gens-là, j'ai cru comprendre que le vocabulaire était très important.
C'est un vocabulaire qui est très imagé, très fleuri, très important. Vous avez cité quelques termes essentiels, notamment mal alpha, voilà, ce genre de termes. Et c'est important parce qu'en fait, chaque sous-communauté, j'ai envie de dire dans toute la vie, mais encore plus sur Internet, a son propre fonctionnement, son propre langage, sa propre imagerie, ses références culturelles, comme la pilule rouge dans Matrix, par exemple. Et c'est en fait des choses comme ça qui permettent à ces individus-là de se réunir aussi et de se comprendre entre eux.
Et on peut quantifier le phénomène. Je disais tout à l'heure que certains pensaient que c'était un effet de loupe, qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça. Est-ce qu'on a des données chiffrées un peu précises?
Alors, les seules données chiffrées que moi j'ai pu recueillir dans toutes mes enquêtes, parce que bien sûr, quand on parle de contenus qui sont en ligne, entre ceux qui vont regarder par curiosité malsaine, ceux qui regardent mais qui n'adhèrent pas, ceux qui regardent et qui adhèrent, ça fait quand même beaucoup de profils très différents. Il y a un chercheur qui s'appelle Manuel Horta-Ribeiro, qui est suisse et qui a travaillé sur la manosphère anglophone sur les réseaux sociaux Reddit. Mmh. Donc c'est très précis comme recherche. Et lui, il est arrivé à 1 million de profils différents sur ce réseau social et que en anglais, qui on le sait quand même la langue un peu d'Internet au niveau international. Mais ça donne quand même une idée d'à quel point c'est quelque chose d'important. Et puis après, en France, il suffit de regarder malheureusement les derniers rapports du Haut Conseil à l'égalité en janvier 2024 qui dit que 59% des hommes de moins de 35 ans considèrent qu'ils ne peuvent plus draguer sans être vus comme sexistes. Je pense que c'est un bon... ça permet de jauger un peu où on en est aussi.
Voilà, Internet est capable du meilleur comme du pire. Bon, c'est pas une réflexion très profonde, on sait depuis longtemps. Mais il y avait ce mouvement-là, on l'a dit, dans les années 70. Vous avez enquêté sur le Moyen-Âge de cet âge-là. Voilà.
Ouais, absolument. Alors, c'est notamment la politologue Mélissa Blé, qui est québécoise, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui expliquait qu'en fait, dans les années 70, à l'époque de cette seconde vague du féminisme, les féministes ont commencé à se réunir en non-mixité. Donc sans les hommes, pour pouvoir parler un peu librement, et que ce soit leur mari, leur père, leur copain, on dit bah, vous vous réunissez entre femmes, mais nous qu'est-ce qu'on peut faire? Et les féministes ont dit bah, faites exactement la même chose, réunissez-vous entre hommes et essayez de voir comment vous pouvez changer la société. Sauf que ça s'est pas super bien passé. Dans ces groupes de parole contre hommes, il y a deux courants qui ont émergé. Un courant qui dit un peu comme Simone de Beauvoir, bah, on ne naît pas homme mais on le devient. Et ça, c'est un mouvement qui s'est plus rapproché des féministes. Et après, un autre mouvement qui disait non, on est homme avec des caractéristiques masculines de pouvoir, de virilité, de puissance, voilà, d'être le chasseur du foyer et le pourvoyeur. Et eux, en fait, sont devenus les masculinistes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais en fait, tout ce qu'on remarque, et c'est ce que explique Suzanne Faludi dans Backlash, c'est qu'en fait, à chaque avancée pour les droits des femmes, mais aussi pour les droits des personnes LGBT, par exemple, on retrouve des formes de résistance très forte.
France Inter. Affaires sensibles.
Pauline Ferrari, on parlait tout à l'heure d'Internet comme booster du masculinisme, entre autres. Mais moi, je pense à TikTok, le réseau des jeunes. Est-ce qu'ils sont aussi... Est-ce qu'il y a un risque d'intoxication masculiniste sur TikTok? Oui, j'imagine.
Oui, et puis c'est déjà le cas, en fait, malheureusement. En fait, à partir du moment du confinement de 2020, il s'est opéré un double phénomène. À la fois, TikTok a explosé hors de la Chine et principalement dans les pays occidentaux. Donc, beaucoup de jeunes ont commencé à se mettre sur TikTok, et de l'autre, les communautés masculinistes, depuis un moment, avaient déjà opéré une espèce de stratégie de sortir dans des bas-fonds, des forums obscurs d'Internet, pour aller du côté de YouTube, du côté d'Instagram, du côté de Facebook, mais c'est vrai que TikTok leur a fourni une arme de destruction et d'embrigadement massif, parce que c'est un contenu très court, qui se consomme très facilement, et qui permet, en fait, en quelques vidéos, une forme de radicalisation. Il y a beaucoup d'enquêtes, notamment du Financial Times et de The Economist, qui avaient montré que, en fait, sur plein de sujets de TikTok, on pouvait aller vraiment vers des contenus très très extrêmes, notamment d'incitation au suicide, des contenus néo-nazis. Ça vaut le coup aussi pour les contenus masculinistes. On peut se retrouver avec une première vidéo sur comment draguer une fille, comment avoir confiance en soi, et une demi-heure plus tard, se retrouver avec des contenus qui appellent au meurtre des femmes.
Alors justement, l'assassinat de Mélanie par Michael Filetta, c'est-il le premier crime commis par un masculiniste assumé dans ce pays qu'est la France ?
Médiatisé, en tout cas, oui, oui, dans le sens où c'est le premier où on sait, où c'est tellement gros, parce qu'il y a cette chaîne YouTube, parce qu'il y a ces positions-là. Mais la question qui se pose, c'est combien d'autres féminicides ou tentatives de féminicides et de violences sexistes ou sexuelles ont été motivées par une raison masculiniste sans qu'on ait été au courant, sans que ce soit médiatisé. Sachant que le terme masculiniste, il est assez, au final, nouveau dans l'espace public et médiatique. C'est un terme qui est plutôt connu des sciences sociales et des militantes féministes. Donc forcément, ça met du temps. On a déjà mis plusieurs décennies à parler de féminicide comme de quelque chose de...
Parler de crime passionnel,
exactement, souvenez-vous. Pour parler de quelque chose de systémique. Donc je pense que pour le masculinisme, c'est pareil, même si on a des exemples, et notamment à l'international.
Alors justement, aux États-Unis, au Canada, l'école polytechnique, on avait raconté ça dans Affaires Sensibles, justement. Ouais. Rappelez-nous ce qui s'est passé.
Alors, l'école polytechnique, c'est dans la fin des années 80, début des années 90 à Montréal, on a un tueur, Marc Lépine, qui était farouchement antiféministe et identifié comme tel, qui est rentré dans l'école polytechnique, qui a séparé les garçons et les filles, et qui a expliqué aux filles que c'était des hosties de féministes, et qui détestaient les féministes, et qui leur a tiré dessus. C'est un attentat de féminicide de masse, considéré comme tel maintenant par la mairie de Montréal et par l'entièreté du paysage québécois, mais ça a mis du temps là aussi. Et malheureusement, depuis les années 2010, on retrouve aux États-Unis, au Canada et maintenant en Angleterre des cas d'attentats de masse masculinistes. Je pense à Elliot Rodger en Californie en 2014, Alec Mination à Toronto en 2018, un homme en Angleterre à Plymouth en 2021. Et malheureusement, en France aussi, même si on n'a pas eu d'attentats à proprement parler comme on peut se l'imaginer aux États-Unis, on a eu quand même des tentatives d'attentats et des attaques masculinistes sur le territoire.
Nous l'avons vu au fil du récit, il y a des ponts entre l'extrême droite et le masculinisme. Vous confirmez, quels sont ces ponts ?
Il y a des ponts très forts en termes de porosité idéologique. Tous les masculinistes ne sont pas d'extrême droite, c'est important de le préciser, mais la plupart des personnes d'extrême droite ont en eux une vision assez masculiniste de qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est les rôles de genre. On l'a vu avec la trajectoire politique d'Éric Zemmour qu'on a pu entendre dans le récit, on peut le voir avec plein d'influenceurs et surtout d'influenceuses d'extrême droite en ligne. Je pense à Thaïs Descuffon, je pense au groupe Nemesis. Donc il y a une vision de la société, une vision des rôles de genre qui est très favorable en fait pour l'extrême droite. Et donc ce qu'on remarque maintenant, c'est que en fait l'extrême droite joue sur ces arguments du genre et du masculinisme pour attirer des jeunes de leur côté de la barrière.
Alors si les masculinistes ne sont pas tous d'extrême droite, est-ce qu'on connaît un peu leur profil politique, si tant est qu'ils aient une conscience politique d'ailleurs ?
C'est compliqué là aussi parce qu'on a très peu d'études quantitatives ou qualitatives sur le sujet. Par contre, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'il y a une diversification un petit peu des masculinismes. Dans le sens, on ne peut plus parler de masculinisme au singulier, mais plutôt au pluriel. Et en fait, il y a un peu un masculinisme pour chaque homme. Il y a un masculinisme plutôt fitness, il y a un masculinisme plutôt entrepreneurial, très inspiré de ce qui se fait aux États-Unis avec la grosse voiture, la Rolex et des liasses de billets. Il y a un masculinisme plus identitaire, plus politique, tel qu'on le retrouve avec l'extrême droite en France. C'est entre guillemets comme ça un panel de différentes manières de voir la masculinité violente et qui s'illustre là-dedans. Et là-dedans, on va avoir quand même des positions assez conservatrices, au moins sur la question des femmes.
À votre avis, Monsieur Trump est-il masculiniste ?
Absolument. aucun doute là-dessus.
C'est clair.
Absolument. Ou en tout cas, il a usé des argumentaires masculinistes durant sa campagne, durant ses différents mandats. Et je pense surtout que les personnes qui l'entourent, notamment le groupe des Proud Boys, qui est une milice armée masculiniste assez connue et assez violente, l'est aussi. Donc oui, masculiniste pour Trump, absolument.
Alors, que raconte le fait qu'il ait été élu ?
On a beaucoup parlé dans les médias ces derniers temps qu'il y aurait une forme de guerre des sexes aux États-Unis. Je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a une question du genre qui est assez essentielle. On voit une génération de jeunes hommes en âge de voter qui pensent que le féminisme est allé trop loin, qu'il y aurait des formes de complot, d'élite au pouvoir qui ferait que, en fait, on essaierait de génocider les hommes, en fait, tout simplement, qu'il n'y aurait plus de vraie masculinité féminité.
C'est bien parano quand même.
Ouais, on est quand même sur ce
idée-là. Totalement fantasmatique.
Totalement fantasmatique. Il suffit de regarder les chiffres un petit peu sur des équipes de salaire, ne serait-ce que ça. Et ensuite, il y a bien sûr la question du racisme aux États-Unis qui est très très fort. Et la question, c'est pourquoi les gens ont voté pour Trump, mais aussi pourquoi les gens n'ont pas voté pour Kamala Harris, parce que c'est une femme, mais c'est aussi une femme racisée. Ouais. Et donc la question du racisme, elle est aussi très prégnante.
Bien sûr.
Là-dessus.
Alors finalement, et au bout du compte, ce sera ma dernière question, mais qu'est-ce qui les motive, les masculinistes? Je disais, il y a ceux qui ont mauvaise conscience, donc qui ont peur des féministes. Il y a ceux qui n'ont pas mauvaise conscience, mais qui n'aiment pas les féministes. Quels sont les ingrédients de cette pensée? Moi, j'ai du mal à comprendre.
Les ingrédients de cette pensée, il faut la voir comme... c'est un espèce de kit tout prêt à penser. Moi, ouais, je l'explique souvent comme
prêt
ça. C'est surtout pour les jeunes garçons, quand on a 15-16 ans et que voilà, on vit dans une période qui est quand même troublée en termes de climat politique, écologique. C'est difficile de se projeter dans l'avenir. Et là, on a des hommes apparemment pleins de succès financiers, qui sont beaux, qui arrivent à avoir plein de femmes, qui vous disent « mais si vous faites comme moi, vous allez devenir comme moi ». Et donc forcément, ça donne envie d'y croire aussi. Ouais. Et donc en fait, c'est plus facile de dire « c'est la faute des femmes » plutôt que de se remettre en question.
On peut penser aussi, et ça c'est sur l'autre rive de la pensée, que le combat féministe profite aussi aux hommes, parce qu'après tout, une société égalitaire entre les sexes est une société harmonieuse. Donc comment entraîner les hommes dans ce combat ? Au-delà de la déconstruction des vieux mâles blancs, mais qui fonctionne aussi. Hein.
Je pense qu'il y a une question d'éducation et une question aussi d'avoir ces messages-là qui soient apportés par des hommes. Alors pas que les féministes parlent de la même chose depuis des décennies, mais apparemment ça prend pas. Donc je pense que c'est peut-être aussi aux hommes qui ont fait ce travail de déconstruction justement de prendre le relais et d'organiser aussi des choses pour montrer les bénéfices justement du féminisme à long terme et notamment d'avoir des relations heureuse de pouvoir montrer ses sentiments, c'est pas mal, moi, je trouve.
Ah bah oui. Une toute dernière chose, la misandrie. Alors, ça, ce sont les hommes qui n'aiment pas les hommes qui considèrent qu'ils ne font pas partie de la moitié la plus recommandable de l'humanité. C'est ce qu'exprime brillamment le chanteur Renaud dans sa chanson Miss Maggie. Je vous conseille de la réécouter, cette chanson-là. Et moi, Pauline Ferrari, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Michael Filetta. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Mélissa et Troyes.